Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International sur RFI, bien sûr, et comme chaque jour pour parler de football avec les Bleus en Bretagne pour une rencontre amicale, un match France-Islande qui va sans doute permettre à Didier Deschamps de varier son 11 idéal, celui qui fut titulaire en Russie durant la compétition, la Coupe du Monde, et sans doute aussi de voir le petit dernier appelé en équipe de France, Tanguy Ndombele, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Antoine Grenier est à Guingamp pour RFI. La CAN 2019 approche et des éliminatoires très importantes pour la qualification à la compétition programmée en juin et juillet sont au programme. Match aller-retour dans les 12 groupes africains dans un calendrier de plus en plus serré, même en Afrique, un continent où les championnats ont un peu de mal à s'organiser aujourd'hui encore. Et nous en parlerons avec notre invité Stéphane Saramon. Bonjour.
Bonjour.
Merci de venir dans Radio Foot. Vous êtes chargé des relations de la division Afrique de la FIFPro, qui est le syndicat international des joueurs.
Tout
et vous nous parlerez du contrat qui vient d'être signé, notamment avec la CAF. Les Bleus, avec un E, les filles de l'équipe de France préparent, elles, leur Coupe du Monde. Ce sera l'été prochain, d'ailleurs, en France. Elles ont battu hier soir les Camerounaises sur le score de 6-0, mais les Camerounaises avaient de bonnes excuses pour ne pas tenir les 90 minutes face aux Françaises. La FIFA veut encourager la pratique du football par les filles et elle a présenté sa stratégie de développement. Nous en parlerons aussi dans cette émission, et notamment avec Habib Bey. Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
À vos côtés, Franck Simon, notre homme du football africain. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Camarade de France Football, et puis Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
Camarade d'Eurosport, Alejandro Valente. Bonjour Alejandro.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti.
C'est dur déjà de reprendre rien mondial comme ça. On est arrivé assez tôt, on est rentré assez tôt, on n'a pas eu beaucoup de temps de récupération. Donc mentalement et physiquement, c'est vrai que c'est pas évident.
Pourtant, le public les attend, ces champions du monde. Et sans doute, le stade du Roudourou sera un peu trop petit demain soir avec ses 20 000 places dans ce coin de Bretagne féru de football, puisque c'est la terre de l'en avant Guingamp et du président aussi de la Fédération française, Noël Le Graët. Ils viendront présenter leur trophée doré au public. Alors à l'affiche, il y a un France-Islande, c'est un match amical avant le France-Allemagne prévu la semaine prochaine dans le cadre de la Ligue des Nations. Didier Deschamps pourra sans doute à nouveau tester son équipe et faire quelques ajustements. Il y a un nouveau, il s'appelle Tanguy Ndombele. Est-ce que c'est compliqué de rentrer dans un groupe qui vient d'être sacré champion du monde en Russie? Hugo Lloris qui s'exprimait il y a quelques instant en conférence de presse d'avant-match, le capitaine parle de son groupe.
Non, il n'y a pas de clan. Les choses, les rapports se font naturellement et pour la plupart, ils se connaissent très bien. Soit ils sont de la même génération ou soit ce sont des joueurs qui reviennent après quelques années. Je précise que le fait d'avoir été champion du monde, c'est vrai qu'on a été 23 à l'avoir fait, mais la fierté, elle appartient à tous les Français et même les joueurs qui n'ont pas participé. Donc lorsqu'on arrive en équipe de France aujourd'hui, c'est encore un statut différent que par le passé. Il faut être à la hauteur de ça et donner le maximum, mais surtout être naturel, que ce soit dans la vie de groupe ou sur le terrain, pour être dans les meilleures conditions et pour pouvoir s'exprimer de la meilleure des façons sur le terrain et pour aider l'équipe et puis pourquoi pas s'installer sur le moyen terme avec l'équipe de France.
Habib, quand on a vécu une aventure comme ça avec un groupe, alors évidemment je fais allusion à celui que vous avez vécu, c'était en 2002 et vous n'étiez pas champion du monde, mais c'est une aventure commune dans un groupe. Évidemment, après, il y a l'après forcément, le football continue, les compétitions s'enchaînent, la France là, va jouer son troisième match d'après Coupe du Monde, il y a des nouveaux, il y en aura toujours, il y a des blessés, il y a des absents.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait logique, il y a un renouveau de toute façon dans un effectif comme celui-ci, dû au
blessés, dû au fait que certains joueurs sont en difficulté aussi. Il y a des nouveaux qui arrivent, c'est aussi ce qui crée une émulation au sein d'un groupe. C'est important de pas garder en fait ces 23 champions du monde qui sont entre eux dans un basse cour.
Dans un cocon, ouais.
Ouais. Mm-hmm. Donc à partir de là, je pense que ça permettra à Deschamps de tester certains joueurs. Le petit Ndombele mérite d'être là aussi puisqu'il a fait une très bon début de saison avec Lyon. C'est un joueur intéressant qui a pas le même profil que les autres. Donc tout ça fait que ça permet aussi de remettre en question un petit peu tout le monde. C'est bien ce titre de champion du monde, mais il faut continuer à avancer pour l'équipe de France. Il y a des objectifs qui sont importants. Je pense à l'Euro qui peut être aujourd'hui important pour cette équipe d'aller chercher justement, ils l'ont fait, une Coupe du Monde et ensuite un Euro derrière. Et puis je pense qu'on a une génération en équipe de France aujourd'hui qui peut durer sur les 5-6 prochaines années. Donc ça prouve qu'il y a de la qualité.
Ce titre de champion du monde, il instaure une hiérarchie, on va dire, dans le groupe. Voilà, on va dire que maintenant, et si vous prenez l'interview de Lucas Digne dans l'équipe ce matin, il vous explique très bien que maintenant il y a Mendy et Hernandez et que ce titre de champion du monde, il organise, on va dire, la hiérarchie au poste. Mais si vous regardez bien, mis à part Ndombele pour qui c'est une première, Deschamps ne prend que des joueurs quand il en rappelle qu'ils connaissent déjà le groupe. Ce qui ne met pas vraiment de pression, de résultats, d'intégration. Sako, Zuma et même Digne, c'est des joueurs qui ont fait les éliminatoires, qui sont là depuis longtemps, notamment pour Mamadou Sakho, 2013, même avant. Donc on va dire que la pression d'intégrer un groupe de champions du monde, elle est atténuée par ça.
Oui, et donc finalement, le fait d'intégrer des autres, c'est presque une force peut-être aussi.
Ah mais c'est évidemment intégrer une force. Quand vous intégrez Tanguy Ndombele, Habib l'a dit, il a un profil différent, c'est pas le même volume de jeu et les mêmes qualités que Corentin Tolisso, il va amener quelque chose de supplémentaire. Charge à lui maintenant de bousculer cette hiérarchie pour être rappelé. Mais forcément, faire venir des joueurs, des nouveaux joueurs, ça ne peut être que positif.
Mais Franck, c'est une obligation aussi pour le sélectionneur parce que finalement, justement, là, on a des blessés en l'occurrence Umtiti, on rappelle Sako, mais il faut qu'elle soit toujours prête, finalement, cette équipe et un groupe élargi.
Et on va pas lui reprocher dans le sens qu'on sait que c'est un technicien qui est plutôt conservateur dans ses choix. Ce que dit Naïm est important. Il rappelle effectivement qu'il y a des garçons qui sont là, mais qui étaient déjà là. La passerelle existait, simplement, entre-temps, il avait fait des choix pour une phase finale. Aujourd'hui, il a des matchs, je dirais, c'est incompressible. Il faut les disputer, il faut les jouer. Bon, c'est l'occasion de voir un petit peu où chacun se situe. C'est pas vraiment de la compétition là pour l'instant. En revanche, c'est bien d'avoir quand même, je trouve, de temps en temps l'apport d'un ou deux nouveaux. En l'occurrence, un garçon qui a été bon depuis quelques mois déjà, qui a été bon depuis le début du championnat. Mais c'est vrai cette histoire de hiérarchie. On ne peut pas y échapper. Mm-hmm. Oui. Aucune sélection n'y échappe aujourd'hui.
Même par rapport aux remplaçants.
Ça existe en club. Ça existe en club et ça existe.
Il faut avoir une hiérarchie. Il faut que ceux qui arrivent aient envie d'être au-dessus de ceux qu'il y a déjà en place. C'est comme ça que ça marche la compétition.
Habib, alors on parlait d'un nouveau, c'est Tanguy Ndombele. C'est ce qui concerne le milieu de terrain. Mais il y a Raphaël Varane qui est là, lui champion du monde. Mais Mamadou Sakho, ils vont devoir créer ou recréer une charnière qui avait déjà existé, fut un temps, on s'en souvient notamment pour la qualification 2013, c'était pour la Coupe du Monde 2014.
Oui, c'est pour ça qu'il le reprend d'ailleurs. Je pense qu'il prend pas de risque à aller prendre un petit nouveau. Tout le monde avait parlé par exemple de Clément Lenglet qui aurait mérité aussi, au vu de ses qualités et ce qu'il fait avec le Barça lorsqu'Umtiti est blessé, de venir en équipe de France. Je crois que Deschamps ne veut pas bouleverser cette hiérarchie déjà, parce que je pense que dans la tête de Mamadou Sakho, il devient en numéro 2, 3 de cette charnière centrale. Il le sait, il sait très très bien que si les titulaires reviennent, ça sera pas lui le titulaire au poste, alors qu'un Clément Lenglet qui arrive avec beaucoup de fraîcheur peut bouleverser cette hiérarchie et créer un problème en fin de compte dans l'osmose qui s'est créé au sein de cette Coupe du Monde. Lorsqu'on a des compétitions rapprochées comme celle-ci, c'est-à-dire Coupe du Monde, Euro, deux ans après, on peut pas se permettre, et toutes les sélections l'ont vécu, de tout changer. Si on veut garder une force et une continuité, il faut afficher un petit peu justement une continuité dans les choix, et je crois qu'il le fait avec Sakho, avec Zuma, qui connaissent la maison, qui connaissent les joueurs en place, qui vont savoir se placer dans ce groupe-là, sans forcément créer des problèmes au sein de la tête de Raphaël Varane, qui sait très bien qu'il part comme un grand favori, qui part comme un grand titulaire et un leader de cette défense.
Alejandro ?
Je peux pas ajouter beaucoup de choses à ces arguments. Après, je pense que tôt ou tard, il va falloir que la hiérarchie commence à être un peu bousculée quand même. On va arriver à quand même à se poser des questions sur certains joueurs qui...
Ça dépend à quel poste. Ça dépend à quel poste. Habib disait, c'est une génération qui a 5-6 ans. C'est vrai que si vous prenez par exemple les latéraux, si vous prenez le milieu de terrain, sur les 6-7 années qui arrivent, il faudrait vraiment qu'il y en a un qui soit très très fort ou un qui vraiment chute de niveau pour que la hiérarchie se bouleverse. Après, je suis d'accord, en charnière centrale, si Umtiti qui est quand même assez souvent blessé, quand même régulièrement, bon, si effectivement charnière centrale, Umtiti n'est plus performant, ou Varane, il a 24-25 ans, Varane il est encore très jeune, donc ça dépend les postes. C'est vrai que la hiérarchie est faite pour être bousculée, mais le fait qu'elle soit en place sur les 4-5 prochaines années est quand même important.
Oui, et puis ne pas oublier aussi ce que veut faire Deschamps. Le problème il est là, c'est que bousculer une hiérarchie, il faut vouloir évoluer dans son style. Je ne suis pas sûr que Deschamps aujourd'hui ait l'envie d'évoluer dans son style, et lorsqu'on voit les joueurs en place, je ne pense pas que dans le système des champs, Benjamin Mendy puisse bousculer un Lucas Hernandez qui va rester dans ce qu'il sait faire très très bien et ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui un Sidibé puisse bousculer un Pavard, même si Pavard pour moi n'est pas excellent en équipe de France, mais il correspond un petit peu à l'archétype de ce que veut Didier Deschamps au poste. Les milieux de terrain, je vois pas qui peut rentrer dans ce milieu de terrain, puisque de toute façon, ils sont tous titulaires. Parce qu'on dit ce qu'on veut, Matuidi aujourd'hui est titulaire à la Juve, N'Golo Kanté est indéboulonnable. Matuidi, Pogba est l'homme clé de Deschamps. Le seul peut-être qu'on peut remettre en question, c'est Giroud sur le front de l'attaque parce qu'il joue peu en club, même s'il a un petit peu plus joué ces derniers temps. Mais
Matuidi, il n'a pas le même âge non plus, Giroud.
Voilà, exactement.
C'est un des joueurs les plus âgés, c'est peut-être même le plus âgé. Mais ouais. Deschamps et Guy Stéphane d'ailleurs, qui est son adjoint et qui lui aussi va retrouver Guingamp, le club où il a été formé, insistait beaucoup. J'ai lu une interview dernièrement sur la force du groupe. Et s'il a été chercher des joueurs qu'il connaissait aussi, c'est justement pour pas que ces joueurs-là viennent mettre le désordre dans un groupe qui est déjà bien établi, qui a ses règles et qui va devoir continuer à évoluer, parce que on dit qu'ils ont 5 ou 6 ans, effectivement ils ont 5 ou 6 ans devant eux, mais qui sait demain qu'un joueur va se blesser, qui sait demain qu'un joueur va faire un transfert où il va se retrouver dans un club où ça va pas fonctionner pour lui, qui sait qu'il ne va pas avoir des problèmes personnels et que ça va rejaillir sur son jeu. Donc il est obligé, Deschamps, de faire une petite revue d'effectifs, même en rappelant des joueurs qu'il connaît déjà pour se rassurer et pour rassurer le groupe. Mais
il est d'une futilité incroyable, Deschamps. Oui. Quand on voit Rami, par exemple, qui dit j'arrête l'équipe de France, c'est Deschamps qui l'appelle pour lui dire
premier match d'après l'équipe de
France et tu reviens. Il aurait pu dire bon Rami, il a rien fait de fou en équipe de France. Bon ok, je m'en passe et je vais rappeler un Clément
Mendes. C'est pareil pour Dimitri Payet aussi.
Exactement.
Mais ça c'est très français, Rami, parce que par le passé, on se souvient que Tigana, Amoros avaient arrêté l'équipe de France et qu'on avait été les rechercher.
Oui, mais regardez l'équipe d'Allemagne. Elle aussi, elle a été très fidèle.
On a ressorti aussi des joueurs en 2005, pour sauver la patrie. Donc,
voilà. Parce que comme c'est vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on veut pas en fait créer un désordre qui va pas forcément être fait par l'attitude, mais c'est-à-dire que si demain Clément Lenglet arrive et il arrive en équipe de France et il veut tout casser,
évidemment,
il bouscule la hiérarchie, et bousculer la hiérarchie, c'est quand même sur Samuel Umtiti et sur Varane. Donc
et ça déstabilise un groupe.
Exactement. Mais tu la bouscules que par des performances. Qui te rend,
mais nous, on l'a vécu, par exemple, la génération 2002. Ensuite, on a été faire la Coupe d'Afrique en 2004. Il y a eu un renouveau trop important de la part de Guy Stéphane, qui était le sélectionneur à ce moment-là. Et certains joueurs sont arrivés avec des petits statuts à vouloir bouleverser un petit peu la hiérarchie des attaquants qui étaient en place et qui avaient construit cette équipe du Sénégal. Et ça a créé des problèmes parce que les gens se disent, attends, tu viens d'arriver en sélection et tu veux déjà me remettre moi en question alors que je suis un joueur clé de cette équipe. Et ça a été un vrai problème pour nous.
Après, il y a
l'intégration des nouveaux.
Habib, tu as raison, mais après, il y a des histoires de cycle. Vous, votre histoire, Annie disait 2002, mais en fait, votre histoire, elle a commencé bien avant 2002. Je veux dire, 2002,
le groupe s'est construit, on va dire, fin des années 2000, 2001 sur la campagne de qualification, et 2002, on est à maturité. Mais lorsqu'on arrive en 2004, on est une équipe qui, logiquement, doit gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Et on doit être qualifié pour ensuite la Coupe du Monde en 2006. Tu te rappelles le match nul contre le Togo où on ne va pas à domicile et ce qui fait qu'on ne va pas à la Coupe du Monde. Mais cette génération, elle a été bousculée parce qu'on a fait rentrer trop de joueurs à ce moment-là, alors qu'il y avait un effectif qui était stable, qui était compétitif, mais le fait qu'il y ait un nouveau sélectionneur...
L'appel d'air a été trop important.
Exactement.
En fait.
Et ça peut bouleverser vraiment un effectif. C'est pour ça que Deschamps préserve son groupe.
Antoine Grenier, vous êtes du côté de la Bretagne, vous êtes en ligne avec nous?
Vraiment. Oui, bonjour Annie, bonjour à tous et bienvenue sur les terres de Noël Le Grec.
Ouais. Eh ben, on a l'impression que vous vous êtes mis à la musique locale.
De la bombarde. C'est de la bombarde, ça.
Antoine, on évoquait le fait que Didier Deschamps, il a ce groupe constitué. On a entendu tout à l'heure Hugo Lloris dire non, mais c'est un groupe aussi qui peut s'ouvrir à des nouveaux. Est-ce que vous pensez que demain, pour affronter l'Islande, Didier Deschamps, comme c'est un match amical, va en profiter pour justement faire apparaître ou alors Tanguy Ndombele ou peut-être certains qui reviennent dans le groupe et laisser au repos surtout les titulaires qui parfois sont aussi très utiles dans leur club?
Il a l'occasion, il insiste beaucoup d'ailleurs Didier Deschamps sur le fait qu'il a le droit à 6 changements et que du coup c'est l'occasion ici face à l'Islande de pouvoir justement tester de nouveaux joueurs. Évidemment rien n'a filtré si ce n'est l'absence certaine de Blaise Matuidi qui ne jouera pas demain, mais il est resté plutôt Didier Deschamps dans le registre de finalement on est un peu venu chercher un petit bol d'air frais à Guingamp. Avec c'est le premier public de province que les Bleus vont voir depuis leur titre de champion du monde. Didier Deschamps a dit qu'il ne voulait pas que ça s'arrête et il a assuré qu'il n'y avait rien de plus beau que le soutien populaire. Donc là, l'entraînement de tout à l'heure qui va commencer à 17h30 sera dans le stade du Roudourou devant un public. Le stade sera plein et pour demain, Didier Deschamps peut avoir la volonté de revoir peut-être pourquoi pas Mamadou Sakho dont on a parlé en conférence de presse.
L'Islande, alors évidemment, la France a pour l'instant depuis le début de sa nouvelle vie avec deux étoiles sur le maillot a battu ses adversaires ou fait match nul. L'idée, c'est pas d'être ridicule non plus contre l'Islande. Et écoutons Didier Deschamps évoquer cet adversaire qu'il respecte.
C'est une équipe très performante sur les coups de pied arrêtés, pas seulement les corners ou les coups francs. Beaucoup de présence athlétique avec une générosité, un état d'esprit remarquable, même si ça s'est moins bien passé pour eux en termes de résultats à la Coupe du Monde. Mais c'est des joueurs qui se connaissent bien, parce qu'il y a un moment qu'ils sont là, il y a une expérience. C'est pas que de l'engagement et de la présence athlétique, c'est quelque chose qui est bien organisé, bien structuré, pardon, même s'ils ont changé de sélectionneurs, ils ont gardé les mêmes qualités. La chose dont je suis sûr demain, c'est qu'elle elle va rien lâcher. Ça fait partie de son ADN et tant mieux, parce que c'est bien d'avoir un adversaire, de connaître un adversaire et en sachant qu'il y a du répondant.
Antoine Grenier, les Français, ils les connaissent bien, ces Islandais, non pas seulement grâce à leur clapping, mais aussi parce qu'on avait joué contre eux pendant l'Euro 2016 en France, on avait vu cette équipe s'illustrer, et puis on a dans le souvenir sa prestation, notamment contre l'Argentine en Coupe du Monde.
Oui, mais c'est une équipe islandaise qui bénéficie d'énormément de sympathie du côté du public français. Il y a beaucoup de respect aussi, ça se sent du côté de Didier Deschamps pour cette équipe islandaise. Ce matin, même le sélectionneur islandais a été interviewé sur le fait que son équipe arrive absolument pas en forme lors de ce duel. Les Islandais, ils restent sur 9 matchs sans victoire, 7 défaites et 2 matchs nuls. Donc c'est pas un ogre qui se présente à Guingamp. Ceci étant, le sélectionneur islandais a dit ce matin que jouer contre l'équipe de France, championne du monde, bon, c'est peut-être pas le meilleur moment, c'est vrai, mais une équipe comme ça vous permet de pointer vos propres faiblesses et ce sera un peu ça le challenge de l'équipe de France. Didier Deschamps a parlé de la qualité athlétique de cette équipe d'Islande. Il va falloir que les Français soient au niveau athlétiquement et donc qu'il y ait un groupe face à ces Islandais, un groupe français.
Naïm.
Oui, c'est vrai que c'est une équipe qui joue avec ses armes. On l'a vu notamment à la Coupe du Monde pendant l'Euro. C'est des groupes, des blocs très solides, très bas, qui jouent beaucoup sur l'impact physique, qui rentabilisent à mort les coups de pied arrêtés. En termes de jeu, techniquement, c'est pas ce qui se fait de mieux. Et je pense que c'est ce qui explique aussi leur mauvaise dynamique. C'est qu'à partir du moment où on a pris la mesure de ce groupe, de son style de jeu, les équipes qui ont des joueurs très forts, qui font partie des meilleurs du monde, sont capables de prendre la mesure et de trouver des parades pour résister à cette équipe. Mais il faut s'en méfier. C'est très costaud physiquement. Clairement, on est à un moment aussi de la saison où le calendrier s'alourdit, les Coupes d'Europe ont repris, dans certains championnats, les Coupes nationales ont repris, les joueurs ont fait plus de matchs, donc il va aussi falloir faire tourner. Il y a un match amical, c'est 6 changements, donc ça va permettre aussi physiquement de faire tourner le groupe France pour pouvoir résister à cette équipe.
Franck, c'est un test de plus, je dirais, pour l'équipe de France.
C'est déjà vu, Annie. Oui. 5-2, je crois que c'était en quart de finale. Mm-hmm, et je pense qu'ils étaient au bout de ce qu'ils pouvaient produire à ce moment-là, il y a 2 ans. Ils ont effectivement montré d'autres choses, une rugosité, une discipline collective lors de la dernière Coupe du Monde en Russie, et notamment contre l'Argentine. Ça se situera entre ces deux aspects, je pense. Mais la France, sur ce qu'elle présente, elle est au-dessus. Donc ça risque de ressembler à une attaque défense, et c'est pas forcément ce que le téléspectateur attend. On attendrait du jeu, mais ils en produisent tellement peu.
Habib, c'est un bon adversaire pour cette équipe de France, finalement,
oui,
avant de rencontrer l'Allemagne.
C'est un adversaire différent, mais il y a eu une telle progression dans ce football islandais qu'on a été bluffé. Mais maintenant, il faut aussi remarquer que depuis quelques temps, ça stagne un petit peu, puisqu'ils ont atteint leurs limites. C'est vrai qu'ils ont beaucoup progressé sur l'aspect tactique des choses. On se rappelle de ce match contre l'Argentine où j'avais trouvé que c'était un récital tactique pour le coup, ouais, de cette équipe d'Islande, dans les compensations, dans les prises à deux, dans cet aspect de bloc bas. J'avais retrouvé un petit peu, alors sans faire de comparaison aucune, mais ce que faisait l'Atlético Madrid, d'être capable d'enfermer des adversaires, de stopper un petit peu l'animation offensive de l'adversaire. Après, s'ils ont perdu 7 matchs sur 9...
9 matchs sans victoire.
C'est aussi parce que cette équipe, concrètement maintenant, a été jaugée. Tout le monde sait qu'elle n'est plus une surprise, donc on l'appréhende avec beaucoup plus de sérieux. Il faut pas avoir peur de le dire. Maintenant, les équipes travaillent beaucoup plus sur l'Islande qu'il y a maintenant 2 ans, forcément, puisqu'on ne les voyait pas arriver à ce niveau-là. Maintenant, je pense qu'il n'y a aucune comparaison entre ces deux équipes, que l'équipe de France, normalement, avec ses qualités et avec son football, doit faire exploser cette équipe d'Islande. C'est un petit peu le but aussi. Maintenant, c'est un football différent qui vous demande de vous adapter. C'est toujours des clés pour les matchs qui viennent après sur des grandes compétitions.
Antoine Grenier, on vous laisse aller du côté de l'équipe de France qui est en train de s'entraîner. Hier, elle s'entraînait encore, faisait son taureau, comme on dit. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est quand on assiste en tant que journaliste à un entraînement ouvert au public de l'équipe de France ?
Écoutez, pour l'instant, c'est quelque chose finalement d'assez rare d'avoir un entraînement de veille de match, surtout ouvert au public. Pendant la Coupe du Monde, il y a eu un entraînement ouvert avec 200 personnes à peu près. Là, ça va être un stade plein, donc je vous raconterai comment c'est. Ce sera certainement une ambiance de match. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le public va être à 100% acquis aux Français, aux Bleus. Certainement, il y aura des petits chouchous. On attend de voir la réaction du public dès que Mbappé va toucher la balle. Et puis on verra aussi comment Tanguy Ndombele, qui avait été recalé par Guingamp dans ses jeunes années, gérera son retour et comment le public va acclamer Tanguy Ndombele.
Et on verra aussi si Hugo Lloris arrive à faire un clapping aussi bon que celui des Islandais avec le public du Roudourou, comme il l'avait fait lors de la fête au Stade de France. Merci beaucoup Antoine Grenier, on vous laisse courir jusqu'à l'entraînement. Alors merci.
Merci Annie, bonne émission.
Les sélections africaines regroupées pour préparer les deux matchs importants qui se profilent, deux rencontres en aller-retour et qui concernent toutes les équipes désireuses de participer à la prochaine CAN. Les équipes de 12 groupes qui disputeront donc 3 et 4, la troisième et quatrième journée. Et sans doute, on verra peut-être apparaître déjà des qualifiés, Franck, parce que en disputant 4 des 6 journées, on va se retrouver avec sans doute des qualifiés mardi soir.
Bah c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est annoncé en tout cas. Voilà, il y a un certain nombre d'équipes qui sont censées valider déjà leur ticket, sachant que le grand changement depuis juillet 2017, c'est que c'est une phase finale à 24 qualifiés.
Exactement.
Et non plus
donc
16.
Deux maintenant par groupe.
Donc deux par groupe, donc ça élargit et puis ça permet à des nations qui n'ont jamais participé de rêver effectivement d'une phase finale. Attendons de voir déjà les résultats de la journée 3. pour pouvoir parce que c'est compliqué ces matchs miroirs en vérité hein. Vous jouez et vous voyagez dès le lendemain, vous allez dans votre pays ou au contraire vous allez chez votre adversaire et
ce sont des gros déplacements, c'est très intense.
Sauf entre le Kenya et l'Éthiopie puisqu'ils sont voisins, ils jouent en ce moment donc c'est pas bien loin.
Justement ce calendrier, on s'interrogeait ce matin parce que ces matchs aller-retour sur le continent africain, ça peut être compliqué. Alejandro, c'est très serré. Puis alors on a eu un match il y a une quinzaine de mois, le premier, on aura le dernier au mois de mars, juste avant finalement de se préparer pour l'événement. Est-ce que c'est pas un calendrier compliqué à gérer, Alejandro?
C'est un calendrier assez confondant parce que effectivement, vous l'avez dit, il y a eu une première journée dont on ne se rappelle plus. Tout d'un coup, on a deux matchs qui sont très resserrés.
Oui, entre cette première journée et les journées 3 et 4, il y a la deuxième journée qui s'est jouée en septembre, mais qui en fait était la journée de fin mars, qui avait été déplacée. Voilà, aussi à la demande de dirigeants africains,
ensuite,
en particulier pour les mondialistes.
On va finir tout ça à la fin mars, donc moins de deux mois avant le coup d'envoi de la CAN, alors qu'il faudra encore faire les tirages au sort, etc. Donc
c'est pas un bon moment,
Se sont alourdis sur les deux continents, mais moi je pensais, enfin ça me paraît très logique que puisque maintenant on a mis la compétition l'été à la fin des championnats, ça me paraîtrait quand même qu'on regarde aussi le calendrier des qualifications pour essayer d'harmoniser tout ça et qu'on soit pas dans l'enchevêtrement éliminatoire CAN, éliminatoire mondial, et qu'on ne propose pas des journées comme ça deux mois avant le début d'une compétition, le tirage au sort est pas fait, donc ça aussi c'est un chantier pour la CAF.
Beaucoup de chantiers pour la CAF, on va y venir avec vous, oui, Stéphane, c'est vraiment juste une chose, peut-être Franck, c'est dans ce groupe F, on avait quatre équipes et finalement il y a un match qui est annulé parce que mais la double confrontation parce que une des équipes vient d'être éliminée et c'est la Sierra Leone due à des problèmes de fédération.
Elle est suspendue, elle n'est pas éliminée encore.
Les matchs,
en tout cas, les matchs sont annulés.
La double confrontation contre le Ghana est annulée. D'ailleurs, le Ghana s'interroge sur des compensations parce qu'ils ont fait venir aussi des joueurs, ça nécessitait des frais. Ils étaient censés aussi accueillir les Leone Stars. C'est dû à l'ingérence des autorités. Oui. Moi, il y a une commission anticorruption.
Il y avait un ultimatum pour replacer le secrétaire général et le président
et la présidente de la fédération. Il y a une commission anticorruption qui travaille en Sierra Leone depuis un certain nombre de mois. Ils ont décidé de bloquer, de faire sauter les têtes de la fédération sierra-leonaise, si vous voulez, pour parler rapidement. La FIFA, effectivement, leur a demandé de sursoir.
Qu'il n'y ait pas d'intervention.
De simplement qu'il y ait un retour à la normale, parce que vous savez qu'l'ingérence, ça rentre pas en ligne de compte pour eux. Comme il n'y a pas de retour à la normale, même s'il y a eu des discussions entre les autorités tutélaires, le gouvernement et Camara, le secrétaire général, et Madame Johansen, ça n'a abouti à rien. Et du coup, ces matchs sont purement et simplement annulés. Ça réjouit un petit peu, je crois, le Kenya.
Oui.
Qui
reprend espoir.
Ouais, ils reprennent espoir avec
une situation difficile aussi. Hein.
Voilà, il y a le Kenya et l'Éthiopie dans ce groupe, mais il y a le Ghana qui a un bénéfice à leur 6 points. Gagner sur tapis vert,
c'est pas clair.
Mais en tout cas, c'est ce qui pourrait se profiler. On évoquait ces difficultés. On voit aussi maintenant quelle va être la lourdeur de cette CAN, Stéphane Saint-Raymond, parce que 24 équipes. Alors, on parle beaucoup des stades et des infrastructures que le Cameroun a ou n'a pas encore à cette heure, mais il y a aussi toute une organisation. Il y a un calendrier qui était fait pour aider les équipes européennes. Puis finalement, on s'aperçoit qu'ils vont jouer quand même jusqu'au 13 juillet et que ça fait beaucoup tous les deux ans. Est-ce que vous qui avez un regard sur ce football du côté de l'Afrique, vous pensez qu'il va falloir travailler là aussi?
Il va falloir effectivement travailler. Ça fait partie de ce qu'on doit faire avec la CAF, après l'accord de partenariat qu'on a signé avec la CAF. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite, nous, c'est que les joueurs soient partie prenante dans les décisions qui les concernent directement. Le calendrier, c'est quelque chose qui les concerne directement.
Les joueurs actuels et les anciens?
Les joueurs, qu'ils aient un mandat pour représenter les joueurs actuels dans leur pays, que ce soit les membres des 14 unions membres de la division Afrique de la FIFPro par exemple, ou ailleurs. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore, malheureusement, et je dis bien malheureusement, de représentants au Sénégal, mais il faut que tous les joueurs soient partie prenante des décisions et que l'on nomme dans des commissions de la CAF des anciens joueurs qui puissent apporter leur vécu, leur expérience.
Il y en a déjà pas mal depuis un an, oui, un an et demi. Hein.
Oui, il y en a.
Tant mieux d'ailleurs.
Il y en a pas mal, mais c'est pas encore suffisant. Et ça doit surtout également descendre. La CAF donne un exemple, mais ça doit surtout descendre au niveau des fédérations, parce que c'est là aussi que ça se joue et que les problèmes se posent. C'est la CAF, elle donne un exemple. Par exemple, Erita Ilunga, il est à la commission technique depuis un an, mais ce qu'il faudrait, c'est que les joueurs dans les fédérations soient aussi intégrés et qu'ils puissent apporter leur vécu et leur expérience. C'est pas normal que ça se fasse pas. Là-dessus, c'est là que la CAF donne l'exemple avec cet accord de partenariat.
Est-ce qu'il pourrait pas y avoir une possibilité, une obligation, obliger les fédérations à intégrer, avoir, je sais pas moi, un article dans les constitutions disant voilà, dans tous les cas de figure, il nous faut les anciens.
Tu peux pas décider.
Tu peux les forcer, les encourager.
Tu peux les amener à ça, mais tu peux pas dire moi je veux que ce soit un tel qui soit élu plutôt qu'un tel.
Non, c'est pas sur les choix de personne, mais plus sur le fait qu'il faudrait des anciens.
Dans le prolongement, c'est ce qui est écrit formellement dans l'accord.
Parce que vous dites il faut que ce soit les fédérations qui travaillent, mais dans le prolongement de la question de Franck, on sait que sur pas mal de sujets, les fédérations en clair n'existent pas ou alors sont très très liées au pouvoir politique. Donc comment est-ce qu'on fait dans un cas comme ça ? Est-ce que là non plus, il n'y a pas une obligation peut-être de créer quelque chose qui oblige la CAF ou qui permet à la CAF d'intervenir de manière unilatérale quand une fédération déconne ? Moi, je pense au cas du Niger il n'y a pas longtemps où les joueurs ont fait une vidéo en expliquant leur situation. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un chantier là-dessus à faire ?
Ah ben, il y a des chantiers à tous les niveaux à faire, parce qu'il y a des problèmes. Le Cameroun doit recevoir la CAN au mois de juin prochain. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas d'organisation au niveau fédéral au Cameroun. Hein. Il y a des gros problèmes en Côte d'Ivoire. On a des problèmes en Sierra Leone aujourd'hui. Il y a des problèmes au Ghana, on l'a vu il n'y a encore pas très longtemps. Au Mali, où il n'y a plus de championnat depuis 20 mois, je crois, quelque chose comme ça. Au Gabon, où on doit aux joueurs quasiment 1 milliard de francs CFA. Les joueurs ne sont pas payés depuis des dizaines et des dizaines de mois. Il y a des problèmes partout. Et il y a un moment donné, il faut dire stop. Nous, on espère qu'avec les moyens que l'on va se donner d'aider la CAF et d'aller dans le centre de la CAF pour le bien du football et des footballeurs, parce que si on aide les footballeurs, in fine, ça va aider le football africain à justement régler ce genre de problème. Petit à petit, on n'arrive pas avec une baguette magique, on va pas régler tous les problèmes. C'est pas vrai, ça se passera pas comme ça. Vous le savez, il va falloir du temps. Les problèmes d'ingérence, nous, on n'y peut rien. C'est pas nous, les joueurs, qui allons régler ce genre de problème-là. Mais bon... Moi, ça me fait, quand j'entends parler toujours d'ingérence dans les pays africains, c'est l'ingérence, elle existe partout dans le monde, dans le sport. La France également. On se rappelle de la guerre entre les États-Unis et la Russie dans les années 80, etc. L'ingérence, elle existe partout, dans tous les sports et à tous les niveaux et dans tous les pays.
Stéphane, on est bien content aussi quand l'autorité de tutelle, la fédération, enfin pas la fédération, le gouvernement, parfois le président de la République met à disposition un vol. Pour pouvoir faire en sorte que les joueurs se déplacent. Donc là, c'est quand même une ingérence,
il y a parfois des bonnes ingérences et des ingérences mauvaises.
Exactement.
Je veux dire, on sort l'ingérence à tout moment quand on sait pas exactement quoi dire parfois. On revient sur le dossier de l'ingérence.
Le problème, c'est que les joueurs, c'est les otages, là. Les Sierra Leonais qui sont venus, c'est les otages.
Et les Ghanéens, c'est pareil. Ouais. Et comme tu le disais, les joueurs se sont déplacés. Ils ont, Habib, toi, quand tu joues en Europe, tu te déplaçais pour aller faire des matchs. Bon, c'est long. Vous y allez avec plaisir parce que c'est votre pays et que vous avez envie d'y aller. Mais si vous y allez pour rien, vous avez autre chose à faire quand vous êtes joueur professionnel et que vous avez des ambitions et que vous avez des comptes à rendre à votre club qui est celui qui vous paye tous les mois.
Ça, c'est la problématique. Ça, c'est la problématique. Parce que si on amène les calendriers, parce qu'on parlait de calendrier dans le début de la question, c'est que si on étend les calendriers où, par exemple, la compétition va finir le 13 juillet, il faut savoir qu'on peut se retrouver un jour dans la configuration aujourd'hui des joueurs NBA qui sont appelés, par exemple, en équipe de France, qui décident de ne pas aller en équipe de France au moment où le calendrier est étendu, parce que c'est là où il y a la reprise avec leur club, c'est là où c'est le plus important d'être prêt physiquement, parce que lorsque vous êtes dans une préparation, ça vous tient sur 11 mois de compétition, et que concrètement, si vous avez un match le 13 juillet, tout en sachant que vous débutez normalement le championnat début août, vous êtes en pleine préparation physique, vous pouvez pas jouer un match de foot en étant en préparation.
C'est une finale, mais Habib, là on est dans le cadre de l'organisation des Coupes du Monde et de l'Euro. La Coupe du Monde, elle s'est terminée le 15 juillet.
C'est terminé le 15 juillet, mais c'est tous les 4 ans aussi la Coupe du Monde.
Mais l'Euro, c'est ils ont l'Euro aussi, les mêmes pays, c'est souvent les mêmes pays qui se retrouvent à la Coupe du Monde et à l'Euro, mais on peut pas, c'est un bienfait que cette Coupe d'Afrique des Nations soit déplacée l'été.
Et c'était aussi une demande des joueurs.
Voilà, une demande des joueurs. Nous, on a beaucoup milité pour cela. On a déjà ça. On va essayer maintenant. Évidemment, là, ça s'est fait un peu à la va-vite. Il faut maintenant réorganiser les choses, s'asseoir autour de la table, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. Mais là, c'est quand même une chance pour les joueurs africains qui vont pas être obligés au mois de décembre et au mois de janvier d'aller partir un mois, d'avoir des problèmes avec leur club, de rentrer fatigués et après d'avoir de parfois perdre leur place ou de se blesser. On a 100 exemples comme ça. C'est déjà un bien. Et il faut en profiter pour que le reste suive maintenant. Que le calendrier effectivement soit adapté, mais on peut pas dire que finir une compétition le 13 juillet, c'est trop tard.
Non, non, mais je parle tout ça d'ensemble.
Le 15 juillet.
Moi, je parle d'ensemble, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait pas arriver à ce que des joueurs soient contraints en fait par leur club d'être sous pression.
Oui, j'entends bien.
On sait tous qu'on va en sélection parce que c'est notre patrie et parce qu'on a une fierté d'y aller et que quoi qu'il arrive, même si on devait vous dire, vous avez 3 matchs au mois d'août, vous irez les jouer parce que c'est votre sélection. Le vrai problème, c'est qu'à un moment donné, les joueurs sont face aussi. Et les joueurs africains, tout spécialement, sont face aussi à l'autorité de leur club, qui sont parfois, je trouve, et je l'ai vécu, beaucoup plus durs dans la gestion des joueurs africains quand ils vont dans leur sélection, parce qu'ils savent très bien ce qui s'y passe dans le problème d'hébergement, dans le problème de voyage pour certaines sélections. Encore une fois, c'est pas toutes les sélections.
C'est pas toutes les sélections, mais certaines. Oui.
Et qu'à un moment donné, les clubs vont mettre une pression sur ces joueurs-là, et que je dis que l'harmonisation en fait du calendrier et le fait de mettre en place surtout des anciens joueurs ou des joueurs en activité. Pour faire en sorte que tout se passe bien, pour moi, c'est primordial.
Mais il faudrait pas aller à une CAN tous les 4 ans, parce que c'est un peu la logique. Et si on avait la CAN en même temps que l'Euro, on aurait beaucoup moins de problèmes pour les
joueurs. Peut-être, l'avantage, tu auras un problème de diffuseur et peut-être aussi de choses comme ça. La pression va être moindre quand même
sur les joueurs, parce qu'il y a que 2 équipes généralement qui arrivent en finale, hein, vous êtes d'accord avec moi.
T'as quand même un match de classement, ça concerne quand même.
La pression va être moindre que quand ils partaient un mois en décembre et en janvier. Reconnais-le quand même. Ça va être moindre. Il y a la période des vacances normalement. Bon, ça va être moindre. Maintenant, il faut travailler pour le reste. Il faut travailler pour la première partie pour que cette compétition organisée durant l'été puisse effectivement servir le football africain et les footballeurs africains.
Franck Simon.
Juste pour rappeler un élément, parce que je cherchais des dates par rapport notamment au football final à la Coupe du Monde féminine. La Copa América au Brésil en 2019, c'est 14 juin, 7 juillet. Hein. La Gold Cup, elle est également dans cette même période pour le football caribéen. Donc en fait, les compétitions en 2019, il y en a tout un tas, il y en a 3-4 qui vont jouer au même moment. La finale de la Copa América au Brésil, la finale se jouera le même jour que la finale de la Coupe du Monde féminine. Alors franchement, quand on veut défendre le football féminin, on en reparlera peut-être tout à l'heure, Annie.
Hein, Et aussi, la finale de la CONCACAF le même jour aussi.
Ouais, c'est n'importe quoi.
Juste une chose encore sur l'organisation entre guillemets de ce foot africain, Stéphane Saint-Raymond. On sait que théoriquement, les championnats, et on le voit en Europe, c'est le vivier après des équipes nationales, c'est le vivier du football mondial. Il y a un problème d'organisation de beaucoup de championnats en Afrique. Certains joueurs nous l'ont dit à notre micro, milite aussi pour un minimum vital. Est-ce que la FIFA Pro travaille aussi dans ce domaine?
Nous travaillons dans tous ces domaines, et nous travaillons dans les pays dans lesquels nous sommes représentés, et nous espérons travailler avec la CAF dans d'autres pays. Plusieurs exemples. Bon, les problèmes de règlement de salaire des joueurs gabonais, c'est juste impossible, quoi. Il y a des gars qui depuis plus d'un an ne sont pas payés alors qu'ils ont des contrats en bonne et due forme. Ils ne sont pas payés. Les joueurs vont devant les tribunaux, ils gagnent, mais il se passe rien. La FIFA et la CAF doivent intervenir très fortement. Je vois par exemple que la FIFA accorde à un club de Tétouan de 30 jours pour payer son entraîneur qui a été limogé. Mais pourquoi ne le fait-on pas avec les joueurs? Pourquoi ne dit-on pas au club, vous avez 30 jours pour payer vos joueurs, ou sinon on vous sort de la compétition? Parce que les amendes, ça ne sert à rien dans le football. Donner une amende à un club, ça ne sert à rien. Si vous le privez de jouer, si vous privez les sélections des pays concernés de jouer, là, ça va faire mal. Là, vous allez avoir des résultats tangibles. Mais si vous donnez des amendes, je sais pas, on va parler de Monsieur Bongo, par exemple, si vous donnez des amendes à Monsieur Bongo, c'est rien pour lui, une amende, il va payer. Mais si vous privez toutes ces équipes nationales de compétition, là, il va commencer à s'intéresser à son problème, parce que là, c'est l'image de son pays et son image qui va en souffrir.
Franck?
J'ai une question pour Stéphane qui concerne un appel lancé par Aristide Bansé, l'attaquant burkinabé qui joue en Égypte actuellement, enfin, qui joue plus puisqu'il était longuement blessé. Alors, je sais pas si vous l'aviez entendu, il avait interpellé le président Hamad, le président de la CAF, en disant voilà, nous les joueurs subsahéliens, on fait l'objet d'un traitement vraiment pas bon de la part des pays du Maghreb, de l'Afrique du Nord, etc. Est-ce que c'est quelque chose que sur lequel vous êtes penché? Est-ce que vous enquêtez un peu là-dessus? Parce que visiblement, il y a quand même pas mal de témoignages dans ce sens.
On a eu quelques témoignages en ce sens, effectivement. On a travaillé avec nos unions locales. On a une union notamment au Maroc, et on a en Égypte une union aussi assez performante.
En Tunisie, je crois aussi.
En Tunisie, elle est vivotante, disons, parce qu'il y a eu tellement de problèmes après la révolution. En Égypte, on a quelqu'un comme Magdi Abdelghani, qui est une figure du football égyptien. On en a parlé dernièrement à Sharm El Cheikh, puisque de ces cas-là, on en a parlé avec lui longuement. Lui, à son niveau, il lutte contre ça et il interpelle les clubs et les présidents de clubs dès qu'il a des échos, dès qu'il a ce genre d'échos. Mais ce qu'il faudrait, c'est que de plus en plus de joueurs reviennent vers les unions de joueurs nationales pour nous faire remonter ces informations-là, pour que nous, on puisse, avec vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages, mais un seul témoignage, c'est trop déjà, de quelqu'un qui est abusé et qui est trompé seulement parce que par rapport à sa couleur de peau dans certains pays.
On les paye plus.
C'est comme ce qui se passait dans les pays du Moyen-Orient il y a quelques années, on s'en souvient, il y a beaucoup de joueurs qui ont été privés de liberté de cette façon-là, dans les pays du Golfe, et c'est juste scandaleux, il faut y mettre fin. Donc moi j'encourage les joueurs à revenir vers nous et à nous donner toutes les informations, et on fera pression auprès des fédérations et de la CAF pour que ce genre de situation ne se renouvelle plus jamais.
Habib, un petit mot, on parle des éliminatoires et on y viendra les prochains jours sur RFI, mais je voudrais quand même que vous me parliez de la sélection sénégalaise qui joue elle aussi pour sa qualification. Alors on sait que maintenant il y en a 2 sur 4 en gros qui sont dans chaque groupe, mais groupe A et le Sénégal dans ce match aller-retour joue le Soudan.
Ouais, le Soudan, oui. Exactement.
Le premier match sera à Dakar.
Exactement, à Dakar. C'est peut-être une bonne chose.
Soir.
C'est peut-être une bonne chose parce qu'on a vu la contre-performance, parce que c'est une contre-performance de faire 2 buts partout contre Madagascar. Je parlais avec Koulibaly de Naples dernièrement qui me disait que ça avait été très difficile pour eux parce que eux, sur ce terrain catastrophique, ils disaient que Madagascar avait joué au football comme jamais il avait vu ça sur un tel terrain, et que pour eux, ça avait été difficile, et qu'ils s'en sortaient bien avec le point du match nul. Donc je crois que c'est important pour eux de battre le Soudan à domicile, surtout parce que il y a des petites incertitudes au sein du pays aujourd'hui avec cette équipe du Sénégal. On a l'impression de pas voir un collectif se dégager, une qualité de jeu. Donc c'est peut-être l'opportunité pour le Sénégal de remettre un petit peu les pendules à l'heure et de faire un bon match. Une double confrontation, on le sait, ça peut les projeter très très vite qualifiés. Donc même si on le sait, ça va être
carrément, ouais, quasiment, parce que s'ils font 6 points, enfin là ils ont 2 points, ils ont fait une victoire à nul.
Ouais,
donc là s'ils mettent 6 en plus, ouais, quasiment ils sont qualifiés.
Voilà,
je suis pas sûr qu'il y ait de l'inquiétude au sein de la sélection, pour avoir discuté avec les gens qui sont autour de cette sélection, mais c'est un match malgré tout très important parce que c'est à domicile et que aller ensuite au Soudan serait déjà un petit peu plus calme si les Sénégalais venaient à l'emporter.
C'est pas simple quand même. C'est pas une équipe simple, l'équipe du Soudan. On les a mis au chan.
Après, je pense que derrière le Maroc aujourd'hui, le Sénégal, en termes d'effectifs, de qualité de jeu, de stabilité, c'est peut-être ce qui s'est fait de mieux en Afrique. Ça met quand même une certaine pression, les résultats contre Madagascar, évidemment. Après, ils sont évidemment archi favoris contre le Soudan. Mais il va quand même falloir à un moment donné que ce bel effectif prenne ses responsabilités. Et notamment, je pense à Sadio Mané, qui est absolument pas le même en sélection et en club. Ça serait pas mal que ces joueurs-là, ceux qui évoluent dans les gros clubs européens, il y en a. Alors, Koulibaly, il y a une incertitude sur lui. Mais surtout que ces mecs-là prennent leurs responsabilités et emmènent enfin le Sénégal vers une victoire, quoi.
Franck.
Moi, j'espère simplement, je suis d'accord avec Naïm et évidemment avec Habib, mais j'espère simplement que Aliou Cissé, le sélectionneur, aura travaillé sur le Soudan. J'ai pas eu le sentiment qu'ils avaient fait, on en avait parlé d'ailleurs ensemble, sur l'histoire des devoirs, faire ses devoirs et tout ça. C'était presque une boutade, mais est-ce que Aliou avait vraiment travaillé sur l'équipe des Baréa du Soudan, de Madagascar? J'en suis pas sûr. Sur le Soudan, il n'y a pas d'expatriés. Tous jouent dans les championnats nationaux. Ils se connaissent très bien. Ils sortent d'un chan où ils ont fait demi-finaliste. Personne ne les voyait faire quoi que ce soit. Ils ont fait top 4. Ils ont un sélectionneur croate qui est très bon. Logar aussi, j'étais en contact avec lui il y a encore ces derniers jours. Et pour lui, il dit, de toute façon, nous, on est dans la posture. De toute façon, on est donné perdant, même à la maison. Sauf que si le Sénégal ne s'est pas intéressé à cette équipe, aux joueurs qui le composent, il risque d'avoir de gros désagréments. Alors, peut-être pas à Dakar, Mais à Khartoum, faut voir comment ça va se passer.
Dans une certaine mesure, ce Soudan-là me rappelle la Libye de Javier Clemente, avec que des mecs très peu connus. Des joueurs issus du tissu local qui payent pas de mine, qui sont à chaque fois annoncés perdants et qui au final font de bonnes prestations. Qui a fini finaliste du CHAN. Non, moi je trouve que c'est
sur
vraiment
cet argument-là, oui.
On va parler un petit peu de football féminin parce que le football féminin est mis sur le devant de la scène par la FIFA.
Today, I'm very pleased and proud as well because I'm here to launch officially FIFA's first ever global strategy for women's football.
Le football féminin est en plein essor. À la FIFA, nous nous engageons à soutenir son développement et son succès et à utiliser son pouvoir pour influencer positivement la société. La success story du football féminin ne fait que commencer.
Alors, une success story, Alejandro Valente, donc ça veut dire une histoire de succès, n'est-ce pas, qui se met des objectifs officiellement, donc avec le président de la FIFA, vous l'avez entendu, Gianni Infantino, qui dit on voudrait 60 millions de pratiquantes d'ici 2026. Est-ce que c'est beaucoup trop ambitieux?
C'est ambitieux.
Franck a l'air de dire qu'il est un peu fou. Mais
c'est ambitieux parce qu'on est très loin. Après, on a vu une telle évolution dans le football féminin depuis une dizaine d'années qu'on est quand même frappé par la manière dont ça a pris dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et je pense que la Coupe du Monde en France va être un grand moment l'été prochain. Et je pense que la FIFA a quand même raison de se fixer des objectifs ambitieux, quitte à ne pas les atteindre tous, mais à essayer de mettre le paquet sur ce football féminin qui est le vecteur de développement le plus important en parallèle de celui de faire gagner au football des pays comme l'Inde ou la Chine
Il y a une stratégie, hein. La stratégie, c'est de faire un programme de développement de masse, aussi d'améliorer les compétitions. Alors, il y a une Coupe du Monde, effectivement, avant, on en avait moins conscience. Aujourd'hui, elle est télévisée et on en parle beaucoup plus. Il y a des CAN aussi, plus de femmes dans les instances, une secrétaire générale de la FIFA. Abby, vous avez l'impression que c'est une success story, le football féminin?
Faut pas aller trop loin dans la success story, mais ce qui est sûr, c'est que les diffuseurs y investissent, puisque Canal+ a acheté la D1 féminine. On sait qu'il y a une Coupe du Monde en fin d'année. Les joueuses progressent à grands pas.
Quand certains clubs misent sur elles.
Après, sur le championnat de D1, c'est différent parce qu'on a quand même encore un gouffre entre ce qui se fait de mieux et ce qui se fait de moins bien. Maintenant, sur une Coupe du Monde, on a pu voir sur les Coupes du Monde passées que les Américaines, par exemple les Japonaises, ont quand même...
C'est le noyau mondial. Oui, c'est le premier
ont quand même énormément de qualité. Et je reviens à ce qu'a dit Alejandro, c'est-à-dire que c'est une très très bonne stratégie de la part de la FIFA, parce que si vous voulez développer quelque chose aujourd'hui et de partir de très très bas pour l'emmener très très haut, le plus haut possible, c'est le football féminin. Donc,
Mais Stéphane Saint-Raymond, en Afrique, on a vu qu'il y a eu ce match hier entre Françaises et Camerounaises. Bon, alors le solde est de 6-0, mais on sait que ces Camerounaises, malheureusement, ont eu beaucoup de mal à arriver en France, notamment pour des histoires de visa, et que certaines disent, la capitaine qu'on entendait interroger par Éric Chorin disait, on a du mal à se retrouver entre celles qui sont amateurs, celles qui sont professionnelles. En Afrique, le problème de la success story du football doit pas être la même.
Non, elle n'est pas la même, mais en tout cas, le football féminin se développe en Afrique. Mais là,
il y aura une CAN au Ghana.
Les problèmes que vous soulevez sont encore des problèmes d'organisation de fédération. C'est pas normal qu'une équipe qui se déplace un mois avant s'occupe pas de ses visas.
On a attendu une semaine, même pas.
Voilà, c'est pas normal.
Le sélectionneur aussi.
Le football se développe en Afrique. Là, en Namibie, hier, je crois. Oui, hier, on a enfin décidé, 2 ans après le début des négociations, de créer un championnat d'élite féminin en Namibie. Il y a des championnats qui se développent partout. En France, mais je vais parler un peu de la France aussi, puisque j'ai ma double casquette. En France, en 2015, il y avait 50% des filles qui jouaient en D1 qui avaient des contrats fédéraux. Cette année, il y en a plus de 80%, dont 50% d'entre elles ont des contrats à plein temps. Donc ça veut dire que ça se développe. Et dans l'enquête que l'UNFP a réalisée auprès des joueuses l'année dernière, chaque équipe de D1 a un entraîneur adjoint, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens, accès aux salles de soins et aux salles de musculation. Ça se développe, ça s'avance. Ouais, ça se professionnalise.
C'est pour ça que les médias ils y investissent d'ailleurs.
Non, mais c'est bien.
Comme disait tout à fait justement Alejandro, la FIFA dans sa volonté volonté de développement, à part si tu vas en Inde, si tu vas en Chine, le grand marché demain, c'est le football féminin. Et 60 millions de licenciés, de pratiquantes, il y a quelques années, on citait rien que pour les États-Unis le chiffre de 17 millions. Donc c'est tout à fait
réalisable. Oui, mais là-bas, il est très pratiqué par les femmes.
Il faut distinguer.
La Coupe du Monde sera un vrai moteur. Coupe du Monde en France, si elle est réussie, sera un vrai moteur.
Désolé, Franck et Naïm, on aurait eu des choses à rajouter sur ce sujet.
À dire sur le sujet.
Toujours, mais Radio Foot est toujours trop court.
Sur le football féminin, faut faire des émissions, Annie.
Promis,
et je suis tout disponible.
Promis, Franck. Voilà. Et on y reviendra. Ouais. Et vous le savez, il y aura cette Coupe du Monde. Merci à tous. Merci beaucoup, Stéphane Saint-Raymond. Merci aussi à David Finzel.
Merci à vous.
Et Pierre Guérin. Merci aussi à Laurent Salerno qui était à la réalisation. À demain. Priorité.